Oh que oui! Pour les deux prochaines heures, c'est le Point Max qui s'installe à Boulevard 102. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Une chose est sûre, ça va être une magnifique journée à Québec aujourd'hui. C'est 12 présentement, c'est encore un petit peu froid. Mais à 12 degrés avec un beau soleil demain, on va le prendre, ça va monter jusqu'à 18 aujourd'hui. Ça descend bon, au courant de la nuit, là, autant ce soir que demain. On attend un genre de 3 degrés, mais demain, 17 degrés, beau soleil. Dimanche, 20 degrés, beau soleil. Ça, c'est comme les températures parfaites, à mon bien humble avis. Là. Un entre 17 puis 20 degrés avec du soleil, un petit vent. Ça va vraiment être un des beaux week-ends, j'ai envie de dire, de l'année. Niveau météo, puis il va falloir en profiter parce qu'après ça, de lundi à mercredi, ben c'est pas mal juste de la pluie, les amis. On va prendre les présences. 10h01 minute, qui est là dans le Point de Max, qui est là depuis tôt ce matin, qui vient d'arriver? 418-971-1021, je suis curieux de prendre les présences, savoir qui est à l'écoute. J'ai-tu ouvert le Twitch, moi? J'ai-tu laissé tomber ma gang de Twitch? Je pense pas. Twitch, êtes-vous là? On va aller voir si je vous ai... Oui, je vous ai donné accès... Parfait. Fait que Twitch, salut la gang. Vous êtes quelques-uns sur Twitch. Gênez-vous pas si vous voulez voir ce qui se passe en studio. De la belle visite aujourd'hui, là. Entre autres, Carl-Emmanuel Picard de l'Antibar et Spectacle et de District 7 Productions qui va passer. Il est aussi gérant de Sarah Dufour, qu'on aime beaucoup. Puis d'ailleurs, il était avec Sarah au cours du dernier week-end du côté de, si je ne me trompe pas, c'est Kelowna pour les CCMA Awards qui sont les... qui est comme le gros gala canadien de musique country. Fait que ça, c'est super cool. Ben, hâte d'entendre Carl sur cette expérience-là. Je veux jaser à Carl aussi de l'été de spectacle à l'Agora parce qu'il est pas mal derrière ça. Je sais qu'on visait 100 000 spectateurs au courant de l'été là, avec tous les événements qu'on offre du côté de l'Agora. Est-ce qu'on a réussi à atteindre ces 100 000 spectateurs-là? Il reste un show là, à l'Agora vers la fin du mois. Je ne sais pas si ça va se jouer sur ce show-là, mais dans tous les cas, ça vous fera partie de notre discussion avec Carl. Il y a aussi l'amie Catherine Bachand, qu'on aime beaucoup, Catherine de Weekend, de Dallaire le matin, les journalistes là-bas. Elle est dans le paysage radiophonique de Québec depuis avant même ma naissance. Catherine qu'on aime beaucoup, qui va passer nous parler de ce qui va se produire lundi matin à Québec. Manifestation de camionneurs. On ne sait pas encore quelle ampleur ça va prendre, mais on a l'intention de venir bloquer le secteur des ponts avec ce qu'on va appeler les lundis infernaux. Ça devrait s'étirer sur quelques semaines, du moins s'il n'y a pas d'avancée avec le gouvernement sur les différents enjeux qu'on veut mettre sur la table. Fait que Catherine Bachand qui va passer nous voir. 418-971-101, je vous rappelle, c'est le numéro par texto pour réagir s'il y a quoi que ce soit sur les routes. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur les routes pour l'instant. Ça a été assez mollo comme matin. Là. D'habitude, c'est pas mal ça les vendredis, puis ça ressemblait à ça à matin aussi. Vous mentionnez toutefois qu'il y aura fermeture du pont de Québec en fin de semaine de demain 6h à dimanche 10h. Les deux, c'est le matin, là. Fermeture du pont de Québec, donc peut-être à prendre en considération dans vos déplacements. Aujourd'hui, c'est lancement de campagne électorale au municipal. Ça va être des grosses semaines. On a l'impression qu'on est là-dedans depuis un méchant bout de temps déjà. Cette campagne électorale-là, du moins à Québec, on a comme le feeling que c'est lancé depuis un bout. Mais la réalité, c'est qu'officiellement, c'est aujourd'hui le début de la campagne. Est-ce que votre idée est déjà faite? Est-ce que vous attendez de voir des débats? Est-ce que vous attendez de voir des programmes, des idées? Parce qu'il y a comme le... Pour ceux qui sont très anti-tramway ou pro-tramway, ben il y a des options qui sont peut-être plus proches de vos idées, mais même dans chacun de ces camps-là, ben si t'es pro-tramway, tu y vas-tu pour Bruno Marchand? Est-ce que tu y vas pour Claude Villeneuve? Est-ce que tu y vas pour Jackie Smith? Si t'es anti-tramway, est-ce que tu y vas pour Sam Hamad et Leadership Québec? Est-ce que tu y vas pour Stéphane Lachance et Respect Citoyen? Ça, ce sont pas mal les options principales que je viens de vous donner. Il y aura une course intéressante, c'est certain. Puis d'ailleurs, ce matin, un sondage intéressant du côté du Soleil, où ce qu'on nous dit, c'est que Bruno Marchand, au niveau de la satisfaction des citoyens de Québec se retrouve à un sommet pour ce qui est des trois dernières années. Sondage Somme le Soleil. En novembre 2023, ça allait mal pour Bruno Marchand. À ce moment-là, le projet de tramway était tout croche. Ça s'en allait nulle part. Ça coûtait plus cher que prévu. On se chicanait avec le gouvernement. Et Bruno Marchand, à ce moment-là, ben, c'était 36 % de satisfaction des citoyens. Alors que là, selon le sondage qu'on a eu ce matin, ben, c'est quand même un peu plus d'une personne sur deux, soit 51 % qui est satisfaite du travail de Bruno Marchand. C'est une hausse de quelques points depuis juin dernier, mais surtout de 13 % quand on compare à octobre 2024. Ça fait qu'en moins d'un an, Bruno Marchand a quand même été capable d'aller chercher un genre de 13 % de plus de satisfaction des citoyens. Il y a une chose qui ne change pas, c'est quand on s'éloigne du centre-ville, ben la satisfaction, elle est moins là. Le niveau de d'insatisfaction à Charlebourg, il est de 56 % À Beauport, il est à 54 Dans la Haute-Saint-Charles, il atteint plus de 60 % Quand on demande aux citoyens de Québec s'ils veulent un deuxième mandat de Bruno Marchand, ça aussi, c'est intéressant comme chiffre. 38 % qui disent que oui, 50 % veulent un changement, puis 12 % ne savent pas. Puis là, il y en a qui disent, ouais, ben Pourquoi il y a 50 % de gens qui sont satisfaits du travail de Bruno Marchand, mais qu'il y a 38 % seulement qui veulent un autre mandat? Ça ne concorde pas. Puis l'exemple que j'ai sorti à Marceau ce matin, c'est ben moi, Marceau, je peux être satisfait de ton travail en tant qu'animateur du matin. Fait que je peux faire partie des 50 %. Mais de l'autre bord, je peux quand même trouver que, je sais pas moi, Jeff Fortin ferait une meilleure job que toi à l'animation. Fait que je peux être quand même satisfait de ta job, mais je peux penser que quelqu'un ferait une meilleure job. Fait que c'est pas des chiffres nécessairement qui fitent pas ensemble, un peu très bien aller avec l'autre. Puis je suis retourné fouiller dans les chiffres de sondage des derniers mois. C'était un sondage léger, le journal. C'était au mois de juin qu'on avait vraiment des intentions de vote. Parce que là, ce matin, c'est pas des intentions de vote qu'on a. C'est un niveau de satisfaction, d'insatisfaction envers le maire actuel. Puis bon, on peut se dire qu'on a genre les intentions de vote de Bruno Marchand parce que si 38 % disent qu'on veut qu'il reste à la mairie, ben on peut deviner que Bruno Marchand aurait un 38 % d'appui. Ben justement, c'est exactement ça qu'il avait comme intention de vote en juin dernier dans le sondage. 38 % c'était devant un certain Sam Hamad à 32 % Fait que là, la question qui se pose... Mettons qu'on considère que Bruno Marchand est encore à 38 % d'appui, c'est vraisemblablement ça qu'on va avoir comme chiffre dans les prochains jours. Est-ce que Sam Hamad est toujours assez proche à 32 % Moi, je pense qu'avec les erreurs des dernières semaines, ça a descendu en bas des 30 % pour Sam Hamad. Ceci étant dit, ce que Marceau m'a dit ce matin, c'est un peu max. Nous autres, on a le nez dans la politique, on a le nez dans l'actualité. On voit toutes les erreurs de Sam Hamad, puis on en parle, puis on les a d'en face. Monsieur, madame, tout le monde qui vote pour Sam Hamad, mettons qu'il faisait partie du 32 % d'intention de vote, ben ils ont pas toutes vu passer ces erreurs-là de Sam Hamad, puis ils sont peut-être pas trop au courant. Puis en effet, fait que c'est sûr qu'il faut faire attention à notre vision de gens très plongés dans l'actualité par rapport à ceux qui suivent ça peut-être de façon un peu plus éloignée. Le nom de Stéphane Lachance aussi, de Respect citoyen, va être à surveiller. Parce que lui, en ce moment, c'est 12 % des intentions de vote selon le dernier sondage dont je vous parlais, sondage léger Le Journal, en juin passé. Ça va avoir changé pour Stéphane Lachance de Respect citoyen. Ce ne sera plus 12 %. Est-ce que ça va être en bas? Est-ce que ça va être en haut? Lui avait l'air de nous dire, quand il est passé nous voir cette semaine, Stéphane Lachance, que... Selon ce qu'il entendait de sondages qui allaient sortir bientôt, les échos qu'il y avait, c'est que Bruno Marchand allait baisser, que Sam Hamad allait baisser et que lui, Stéphane Lachance, allait monter. Ça, c'est ce qu'il nous a dit cette semaine. C'est ce qu'il aurait entendu, c'est les échos qu'il aurait eu des sondages. Marchand baisse, Hamad baisse et lui monte. Fait que là, ça sera de voir, OK, Bruno Marchand, il baisse de combien? Sam Hamad baisse de combien? Puis est-ce que Stéphane Lachance peut venir se rapprocher de Sam Hamad? Mais dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, je pense qu'on se dirige vraiment dans un contexte où Bruno Marchand va filer vers une réélection. Je peux me tromper, mais à voir comment le vote s'enligne pour se diviser entre Sam Ahmad et Stéphane Lachance, à voir que Bruno Marchand semble avoir un taux d'appui autour des 38%, je vois mal comment soit un Sam Ahmad, soit un Stéphane Lachance pourrait venir à côté ou dépasser ce 38%-là, sachant qu'en juin dernier, Jackie Smith avait l'appui de 10%, Claude Villeneuve de 7%. Il y a de ces appuis-là, possiblement, qui vont aller à Bruno Marchand aussi, dans le contexte où des gens vont se dire « Oh, OK, moi j'ai peur de Sam Ahmad, j'ai peur qu'il soit élu puis qu'il tasse le tramway. J'allais voter Jackie Smith. » Ben, j'ai pas le choix de me tourner vers Bruno Marchand, vote stratégique pour être sûr qu'il passe. Ça aussi, je pense que ça va arriver. Puis il faut dire aussi que ces données-là que je vous donne depuis tantôt du mois de juin, ce sont des données qui ont été mises sur papier là, après répartition des indécis. Combien il y en avait d'indécis? C'était 29%. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Ce que je vous dis depuis le départ, ben ça peut vouloir rien dire pantoute à partir du moment où ces indécis-là vont faire un choix. Fait que ce sera à surveiller. Petit tour des nouvelles municipales avant de jaser à Carl-Emmanuel qui vient d'arriver en studio. Je parlais d'erreur de Sam Ahmad. Ça, je ne vais pas m'avancer à dire si c'est une erreur. Je vais vous donner les faits puis vous pourrez juger. Là, mais il y a une candidate de l'équipe de Sam Ahmad qui a été condamnée à plusieurs reprises pour des loyers payés en retard. En juillet dernier, fait pas longtemps, Véronique Thiboutotte qui a même failli être expulsée de son logement à cause de retard de paiement. C'est le soleil qui nous donne les détails de tout ça ce matin. Depuis 2011, elle a été condamnée à 4 reprises. Les juges qui lui reprochent des retards fréquents. On l'a obligée à rembourser rapidement ces sommes-là sous peine de résilier son bail. Leadership Québec, qui confirme ces épisodes-là, insiste sur le fait que ces dettes-là ont été réglées. Et on souligne la transparence de Mme Thiboutotte, mère monoparentale. On considère que ces difficultés-là illustrent un parcours de vie qui est marqué d'épreuves. Comme je vous dis, je veux pas juger, tu sais. En effet, mère monoparentale, ça doit pas être facile dans la situation actuelle. Mais on expose la question, OK, est-ce que quelqu'un qui a des retards de paiement à plusieurs reprises devrait être candidate pour devenir une élue qui représente la ville? C'est une question que certains se posent. D'ailleurs, toujours, en parlant de Sam Ahmad, on le lit à l'ancien chef intérimaire de Québec 21 et d'équipe Priorité Québec, Patrick Paquette. Ce qu'on nous dit, c'est que M. Paquette pourrait effectuer un retour dans l'arène politique. Le Journal de Québec qui rapportait dans les dernières heures que son nom circule pour remplacer la candidate Lizzie Pincemain dans le district Les Saules, Les Méandres, elle qui doit se retirer pour des raisons de santé. Puis ça peut surprendre d'entendre que Patrick Paquette finalement ferait équipe avec Sam Ahmad, parce que ce qu'on entendait dans les derniers mois, c'est que Sam Ahmad voulait comme pas savoir grand-chose d'accueillir Patrick Paquette dans son équipe, mais selon ce qui est rapporté dans le journal, ben les relations entre les deux se seraient beaucoup améliorées récemment. On va faire le tour des nouvelles ensemble un petit peu plus tard, parce que je voulais mentionner Carl-Emmanuel Picard de l'Antibar et Spectacle et de District 7 Productions est arrivé en studio. Il est aussi gérant de Sarah Dufour. On lui parle dans quelques secondes. Radio. 10h14 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Quoi que ce soit, 418-971-102.1 par texto, notamment si vous avez des questions pour notre invité Carl-Emmanuel Picard, je vous le disais, de l'Antibar et Spectacle, de District 7 Productions aussi, gérant de Sarah Dufour, entre plusieurs autres chapeaux. Carl, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Là, tu reviens, t'as fait de la route pas mal dans les derniers jours. Il y a une semaine, t'étais du côté de Kelowna, je pense.
Oui, on est arrivé à Vancouver, on s'est dirigé à Kelowna pour le CCMA, là. C'est le Canadian Country Music Week, Awards, dans le fond.
Le gros gala canadien pour la musique country.
Oui, c'est ça. Puis,
ça, c'était avec Sarah.
Sarah était nommée comme artiste francophone country de l'année avec Sale Barbe, Vince Lemire, d'autres artistes.
C'est qui a gagné finalement?
C'est Sale Barbe qui a gagné, mais quand même, c'est le fun d'être là.
Ben oui.
Puis là, le lendemain, on prenait l'avion parce que Sarah était nommée au Gémeaux comme découverte de l'année à cause de son passage dans Zénith. Puis elle a gagné.
Ouais, ça Zénith, moi je ne l'ai pas regardé, là, j'écoute pas bien la télé, mais ça a l'air d'avoir été gros pour la carrière de Sarah. Là.
Vraiment, en fait, depuis qu'elle a fait Zénith, moi je m'attendais pas à ça, mais elle l'a gagné. Puis tu sais, exemple, j'étais à la pharmacie, Puis là, elle est sur la couverture d'une revue. Tu sais, avant, elle n'était pas nécessairement sur les couvertures de revues comme ça. Puis là, je regarde la revue. Puis là, la madame à la caisse, elle me dit pourquoi tu regardes la revue? Ben, je suis sur le gérant d'elle. Ah, oui, elle, là, Sarah, elle a fait Zénith. Puis, tu sais, comme tout le monde la reconnaît maintenant.
On a tendance à penser des fois que la télé a plus l'impact qu'elle avait. Puis c'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais reste que. Il y a encore énormément de monde qui regarde la télé, puis ça, tu t'en es rendu compte dans le concret, là?
Ben oui, absolument. Puis tu sais, je pense que des émissions comme ça, t'sais, quand quelqu'un qui travaille là, du 5 à 7 le soir ou la journée, ben, il arrive chez lui, il s'assied sur son divan, il écoute une émission comme ça, c'est assez divertissant puis positif aussi, là.
Sarah, qu'est-ce qui s'en vient prochainement, là? Elle fait ça encore des shows aux 3 jours tout le temps ou là, elle a un break à un moment donné?
Ben là, on a un petit break. En fait, on recommence une série de 22 shows. ça s'appelle « La tournée des régions éloignées ». On commence en Gaspésie, après ça on va au Capitole le 25 octobre, ça c'est pas vraiment éloigné. Après ça on s'en va sur la Côte-Nord, en Abitibi. Fait que ça c'est un total de 22 shows. Puis elle va sortir son prochain album normalement au début du mois de mai.
OK, fait que ça s'en vient. Ouais. Y a-tu des singles qui s'en viennent prochainement?
Ben là, il y a Chumélé qui de son album actuel qui est rentré dans les radios là, à partir de cette semaine. Puis éventuellement, là, on va commencer le rollout du nouvel album.
Tu as nommé le Capitole. J'ai-tu vu passer que, parce que là, on parlait de gala, ça m'a fait allumer, que le Capitole était comme en nomination pour salle de l'année.
Oui, à la disque, okay, effectivement. Cool. C'est une des salles qui est en nomination. Puis je suis content parce que je fais beaucoup de spectacles au Capitole maintenant. Puis je tiens à cœur cette salle-là. Fait que j'étais fier de savoir que cette salle-là est dans cette catégorie.
Non, c'est. Puis j'étais là, c'était lundi, je pense, le show de Our Last Night. Je vais en faire écouter au monde parce que je trouve ce band-là complètement malade. Un groupe qui fait des covers metal de tunes pop. C'est bon en studio, j'en écoute beaucoup, mettons, dans mes écouteurs, là, mais en show, c'était complètement fou. Puis le clash est malade d'avoir des shows de métal dans le Capitole. Où, c'est tellement une belle salle où on dirait que c'est tout léché. Puis là, t'as des gros shows métal. Hey, même, tu sais, je savais que Our Last Night brassait. Je savais pas à quel point le show allait brasser. Puis le pit était intense, quelque chose de rare.
Tu sais, pour parler d'Our Last Night, la dernière fois que je les ai faites à Québec, je pense, c'était en 2007, je pense. En tout cas, ça fait un moment. En tout cas, ça fait très longtemps, puis c'était au sous-sol du Sonum. Tu sais, les locaux de pratique sur Saint-Joseph, là, c'était dans un sous-sol, il n'y avait pas de salle de disponible, c'était comme crade à fond. Puis, tu sais, ils sont venus après tant d'années après, puis j'étais quand même surpris de voir le nombre de jeunes, tu sais, qu'il y avait là, il y avait des enfants.
Hein, j'ai eu la même pensée que toi. Je trouvais ça jeune tellement que moi, j'ai connu Our Last Night il n'y a pas si longtemps que ça. Puis je pensais pendant un bout que c'était un nouveau band. Alors que finalement, ça existe depuis longtemps. Puis j'ai eu une discussion avec quelqu'un d'un petit peu plus vieux que moi récemment. Puis il était, hey, ouais, c'était mon band dans mon adolescence. Je suis comme, t'as peur, ce band-là existe depuis un bout. Puis à me parler, justement, je pense exactement de ce show-là.
Peut-être pas 2007, peut-être 2016, 2017, parce que là, 2007,
ouais,
ça ferait comme.
Ça ferait un bon bout. C'est
genre,
vrai.
Ça a comme pas rapport.
Mais non, c'est ça, c'est un band qui. Mais les shows au Capitole, j'imagine que pour toi, d'avoir cette option-là pour booker tes shows, parce que l'anti, c'est malade pour des shows. C'est combien de capacité déjà anti?
L'anti, c'est à peu près 200.
Non, c'est
ça. Le Capitole, c'est 1400. Puis qu'est-ce qu'ils font au Capitole? C'est qu'on est vraiment confortable.
Ouais.
Tu sais, dans le fond, quand tu es assis au balcon, tu peux t'acheter un siège réservé. Puis là, tu vas au restaurant et tout. Là, tu arrives, tu montes les marches. Tu as l'impression de rentrer dans un hôtel 5 étoiles. Puis là, tu t'assis dans ton siège, tu écoutes le show. Puis sinon, tu peux être au parterre, debout, avoir du fun, mais aussi des banquettes.
Puis le parterre est bien fait aussi, où c'est vraiment en escalier, genre, là. Fait que peu importe t'es où, tu vois quand même bien. Le son au Capitole est super bon.
Les plafonds sont hauts, c'est majestueux.
Ça. Pour toi, c'est un game changer d'avoir cette salle-là dans le contexte qu'on connaît un peu avec Bleu-Feu. Puis là, je veux pas qu'on embarque dans tout ça ce matin, mais pour. Tu sais, il y a plein de shows qui passeraient juste pas à Québec si c'était pas du Capitole.
Effectivement. Puis, ben, sinon, il y a la salle Montaigne aussi, là.
C'est vrai.
Au Cégep Limoilou. En fait, c'est drôle parce que cette salle-là à Limoilou, puis même au Capitole, dans le temps, je faisais des shows aussi au cabaret du Capitole, puis même quand quand j'étais plus jeune, il y avait des shows à la salle Montaigne au Cégep Limoilou. Puis là, depuis 2-3 ans, j'ai l'impression de ramener tous ces shows-là dans ces salles-là où ce que jadis...
C'est ça, parce que salle Montaigne, ça fait pas longtemps, je pense, qu'il a recommencé à avoir des shows-là.
Ça fait à peu près un an.
OK, ouais. OK. Ouais. Puis là, samedi, il y en a un, pas pire.
Ouais, pas pire, il y a Propagandy qui reste genre 50 billets.
OK. Ouais. Ça va bien les ventes de billets, tu sais, je sais que Or Last Night, c'était quasiment sold out. Ouais. Tu dis que Propag se vend bien. Avec l'offre de shows qu'on a, il y en a beaucoup. Tu sais, je checkais juste l'horaire à l'anti, mettons. Là. À l'anti, c'est fou le nombre de plus petits shows que tu es capable d'offrir. Les ventes de billets, généralement, c'est pas pire.
Généralement, ça va bien. Honnêtement, il y a beaucoup trop de shows au mois de septembre puis beaucoup trop de shows au mois d'octobre. J'aurais aimé ça que tous ces shows-là soient un peu spreadés
ouais,
sur 3-4 mois.
Mais des fois,
il
faut que tu les prennes quand ça passe.
C'est ça. Puis c'était comme un marathon.
Si tu à cause que c'est la fin de la saison des festivals puis que tout le monde est en tournée dans ces eaux-là, ou ça a comme pas rapport, puis c'est juste un drôle de timing?
Je pense pas que ça a rapport. Je pense que c'est un drôle de timing. Peut-être que faire cette tournée-là avant l'hiver, peut-être que, je sais pas, prendre la route l'hiver quand il y a de la neige, c'est moins intéressant. Je sais pas.
Les shows à l'anti... C'est-tu plus un risque pour toi, dans le sens où, tu sais, des fois, les bands qui passent là, c'est comme, OK, y a-tu du monde qui connaît ces bands-là à Québec? Je vais-tu me ramasser à vendre 20-25 billets? Parce que, des fois, c'est vraiment des beaucoup plus petits bands. Y a-tu un plus grand risque pour toi?
Ben, tu sais, c'est du développement, en fait. Hein? Comme quand The Bitches, ils ont joué à l'anti deux fois, tu sais, j'ai perdu de l'argent, mais maintenant, si je le referais à Québec, sûrement que le Capitole serait plein. Tu sais, mettons, Ice Night Kills, là, qui joue à Place Belle, maintenant, là, un gros band, ben, ils ont déjà joué à l'anti.
Fait que tu le fais un peu dans ce sens-là aussi.
Tu sais, je me pose pas trop de questions, tu sais, j'essaie de faire des shows qui...
Puis les amateurs sont gagnants là-dedans.
Ouais, vraiment.
La saison de l'Agora, c'est un peu conclu avec Envol et Macadam. Je sais qu'il y a un show qui s'en vient quand même, un dernier à fin du mois, puis annonce beau, puis on a-tu un beau mois de septembre?
Ah, vraiment.
J'avais lu au début de l'été que tu visais 100 000 à l'Agora.
Ouais.
On est-tu dans ces eaux-là?
On est pas mal dans ces eaux-là, tu sais, avec la Super Francofête qui s'est installée à l'Agora là, pendant qu'ils ont fait genre 6 shows là, d'envergure, puis toutes les shows que moi j'ai faites. Festival Nostalgie, on devrait être tout près de 100 000 personnes.
Tu penses-tu le pogner ou ça va être serré?
Ouais, ben, je pense être dans ces chiffres-là.
OK, OK. Ouais. À quel point l'Agora aussi, on parlait du Game Changer qui est le Capitole dans son format de salle. L'Agora, c'est drôle parce qu'on dit tout le temps, on n'a pas de place comme la Place Belle à Québec, on n'a pas de juste milieu. Pendant l'été, l'Agora, c'est vraiment ça, là, d'un genre de c'est 6 000 personnes.
C'est 6 000 personnes, puis c'est malade parce qu'on a commencé avec Cypress Hill à la mi-mai, puis on termine à la fin septembre avec Australian
Pink
Floyd. Là, fait que c'est combien de mois ça? C'est mai, juin, juillet, août, septembre. C'est 5 mois de temps quand même là, qu'on utilise l'Agora, c'est pas rien, hein.
Non, c'est clair. Y en a-tu des fois des opportunités que t'as, parce que je veux pas que tes contacts, tu jases avec plein de monde, puis il y a des bands que tu jases, puis t'aimerais ça amener à Québec, mais que ça peut pas marcher à cause du qu'on n'a pas ce format-là de salle.
Effectivement, je pense que si on aurait un genre de MTELUS là, à l'année à Québec, là, un genre de 3000 personnes ou 2000-2500, tu sais, y a des shows qui font pas de sens au Centre Vidéotron, il y a des shows qui font pas de sens au Capitole, il y a des...
Tu le vois dans le concret.
C'est ça, tu sais. Puis des fois, il y a des bands qui acceptent de faire deux soirs, mais souvent, tu sais.
C'est ça, tu le proposes, puis t'espères qu'ils vont dire oui, mais c'est pas gagné.
Ben, souvent, c'est le band qui le propose. Okay. Eux autres, ils voient ça comme ça paraît bien de faire deux soirs. Tu sais, comme dernièrement au Capitole, il y a eu Ziggy Albert qui a fait deux soirs.
Ok, ouais.
C'est quand même nice.
Puis les bands qui passent à Montréal puis qui viennent pas à Québec, souvent, c'est-tu une affaire de salle ou c'est une question de marché de musique? T'sais, j'imagine qu'il y a un peu des deux.
C'est assez complexe, mais t'sais, je pense que maintenant, Toronto, c'est le marché le plus important.
Ah, puis il y en a tellement qui passent même plus à Montréal. Il y a ça qui est gossant aussi. Là.
C'est ça, t'sais, comme mettons, lundi, je suis posé voir Youngblood à Ottawa.
Ça, je trouve ça tellement
weird. Ils passent même pas à Montréal. Mais
ça, je l'ai trouvé weird dans Simonac.
Vraiment, mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des nouvelles salles à Ottawa, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes qui passent maintenant par Ottawa qui passent pas à Montréal.
Ouais.
Fait que là, Québec, on est les bons derniers.
Non, c'est ça, parce que même Montréal, puis il y a de plus en plus de tournées de stades aussi. C'est ça. Ouais,
Vraiment, ça, même justement le nouveau stade à Montréal, à Toronto, là, la grosse salle, ça fait en sorte que ça l'enlève des opportunités à Montréal. Mais tu sais, parlant des shows qui vont à Montréal, qui vont pas à Québec, des fois, moi, je check les statistiques, là, les monthly listeners sur Spotify.
Ouais, ben ça, c'est intéressant.
Des trucs comme ça. Puis tu sais, des fois, je check un band metal à Montréal, ils ont 30 000 monthly listeners, puis à Québec, ils ont 3 000 monthly listeners.
Ah ouais.
Fait que tu sais, à Montréal, ils arrivent du mal à vendre 1500 billets. Fait que tu sais, à Québec, on va vendre combien de billets s'il y a 10% du chiffre?
Ouais, c'est intéressant.
Y a pas, puis il y a beaucoup de monde de Québec qui va à Montréal dans les shows.
Ah ben oui, ça, on le voit tout le temps. Falling in Reverse à Montréal, c'était jeudi passé, il y a un peu plus d'une semaine. Puis j'étais là, j'ai pris une vidéo, puis je l'ai mis sur les réseaux sociaux de Boulevard. Le nombre de monde de Québec qui sont déplacés à Montréal, pour vrai, ça devait être... Tu sais, le show, c'était plein, fait qu'à peu près quoi, proche 20 000 personnes. D'après moi, c'est des... Je dis-tu quelques milliers? Peut-être un 2-3 000, pour vrai, de Québec qui était à Montréal.
C'est 2 heures de route, là. Fait que si quelqu'un veut vraiment voir le show, il prend son auto puis il y va, là. Puis tu sais, à Montréal, il y a bien plus d'habitants. Donc, des fois, pour prendre des risques, il y en a qui veulent pas oser, tu sais, risquer d'avoir la moitié moins de monde,
ouais.
Puis...
On dit souvent que Québec est une ville de rock, puis ça, justement, dans les chiffres que tu regardes, est-ce que c'est vrai qu'on est peut-être... Parce qu'il y en a qui disent « Hey, pourquoi les bands metal rock vont à Montréal, mais pas à Québec? C'est nous autres la vraie ville de rock. » La réalité, c'est-tu que Montréal a tellement de population que même si on est une ville plus de rock, on peut pas les accoter?
Et là, c'est complexe un peu, mais tu sais, je pense que oui, on le vu avec Papa Roach, là, mettons, tu sais, gros succès, là, je pense que ça va être équivalent à Montréal, là, peut-être plus, mais à cause qu'ils ont des meilleurs groupes en soutien.
Ouais.
Mais il y a certains groupes, là, qu'effectivement, à Québec, tu sais, comme, à une certaine époque, j'ai vu Three Doors Down à l'Agora, là, puis je suis persuadé que si Three Doors Down en reviendrait, ça serait un méga...
Ben oui.
Méga succès, c'est parce clair. Qu'à l'époque, la radio, en tout cas, qui faisait jouer toutes ces tunes-là, était vraiment présente, là.
Il y a un article qui a attiré mon attention hier, c'est les chums de 99.5 qui l'ont partagé, c'est le PDG de Live Nation qui a mentionné dans une conférence que les prix des billets de show n'étaient pas assez élevés. Puis là, ce que je comprends de ses propos, c'est, il donnait des exemples de, ouais, ben elle, à part en tournée, puis c'est genre un 60 camions de tournée qu'il y a à suivre, c'est quasiment l'équivalent d'un Super Bowl à chaque show. L'évolution des prix des billets... J'imagine que pour vous autres, c'est touchant à tabarouette parce que t'as pas le choix des montées si tu veux suivre puis tu veux faire ton cash. Mais c'est-tu vrai qu'encore là, on est comme ça à la limite, mais qu'idéalement, faudrait les monter un peu plus? Et où la ligne?
Ben, en tout cas, moi, en tant que, mettons, consommateur de billets, tu sais, comme exemple, Youngblood, techniquement, j'aurais pu demander des billets gratuits, mais je les ai achetés. Puis il n'y en avait plus disponibles sur Ticketmaster, fait que je les ai achetés sur StubHub, j'ai payé plus cher.
Ouais.
Quand je suis allé voir Taylor Swift avec mes enfants, j'ai payé plus cher sur des sites de revente. Fait que j'imagine que, tu sais, tout ce genre, le monde paye ces billets-là plus cher. Fait que, tu sais, peut-être aussi qu'il y a une analyse qui est faite en fonction de pourquoi, tu sais, on vendrait les billets pas chers si tout le monde les paye plus cher. Puis... Effectivement, tu sais, mettre des tournées sur la route, ça coûte beaucoup plus cher maintenant. Puis les shows sont de plus en plus de qualité. Tu sais, j'étais allé voir Billie Eilish au Centre Vidéotron, puis
ben
c'était,
oui, c'était
incroyable. Là. C'était, tu sais, c'est normal qu'il y ait des frais reliés à ça. Puis aussi, ben, tu sais, les artistes font moins d'argent avec les revenus. Tu sais, quand
Spotify,
les tunes jouent à la radio, les trucs comme ça, ben,
le streaming
sont moins présents. Fait que je pense que les artistes augmentent leurs attentes et leurs cachets pour survivre.
En terminant, Carl, qu'est-ce qui s'en vient du côté de l'Anti? Je sais qu'il y a un dernier show, tu l'as mentionné tantôt, à l'Agora aussi, Salle Montaigne. Qu'est-ce qui s'en vient de marquant dans les prochaines semaines?
Ben écoute, j'ai une grosse été. J'ai hâte que ça finisse. Je pense que ça va finir le 28 septembre avec Australian Pink Floyd à l'Agora. Puis après ça, ben, je vais essayer de prendre un peu de temps pour tout revenir. Parce qu'on dirait que depuis qu'il y a eu Cypress Hill le 14 mai,
ça n'a pas arrêté.
Fait que j'ai juste hâte de faire un compte-rendu de tout ça puis recommencer pour l'été prochain.
Bon, ben tant mieux. Comme je disais tantôt, c'est les spectateurs qui en profitent. Merci beaucoup, Carl. Au retour, c'est l'excellente Catherine Bachand qui vient faire son tour en studio. On parle de la manifestation de camionneurs qui risque de paralyser le secteur des ponts à Québec lundi. Il est 10h30. Le Point Max. 10h37 dans le Point de Max. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021 par texto. 418-971-1021. C'est 14 degrés à Québec. On attend 18 aujourd'hui, généralement ensoleillé. Maudit beau week-end qui s'en vient. Demain, samedi, c'est 17. Dimanche, 20 degrés. Et c'est du gros soleil tout au long du week-end. Les nuits, c'est un petit peu plus frisquet, par contre. Là, ce soir, cette nuit, ainsi que dans la nuit de samedi à dimanche, ça descend jusqu'à 3 avec risque de gel. Fait que si vous sortez veillé à soir ou demain, peut-être prévoir une petite laine pour attendre le taxi en dehors du bar, mettons. Ou si vous allez voir Korn ce soir aussi au Centre Vidéotron, ça peut être bien pratique. Hey, il y a de la belle visite en studio, la collègue de week-end, Catherine Bachand, qui est là.
Bonjour, Max.
Ça va?
Ça va et toi?
Ben oui, ça va bien. Toujours le fun de se parler en ondes parce qu'on se parle toujours hors d'onde.
Oui.
On travaille de très, très près ensemble pour...
Oui.
Tu fais les nouvelles à week-end dans l'air le matin. Les faits à boulevard, on s'échange toujours par écrit.
Matin,
c'est le fun de, c'est le fun de pouvoir se parler. On s'en fera ça quand ça donne.
Chaque fois que tu en as besoin.
Tu m'amènes une nouvelle qui va toucher les gens lundi matin, mais avant, je voulais faire ma part et te parler d'une nouvelle aussi, parce que je pense que tu ne l'as pas vu passer.
Exact.
Tu t'en allais vers sortir des ondes là, quand ça a commencé à circuler ici au Québec. Tu étais déjà dans ta fin de semaine. Moi, je te garde. Jimmy Kimmel, dont le show a été suspendu du côté des États-Unis en raison de ses propos sur la mort de Charlie Kirk. On y a donné des conditions s'il veut revenir en onde, s'il veut retrouver son talk show.
Okay.
On lui dit, puis les conditions en passant là, viennent du groupe Sinclair, qui est le conglomérat à la tête des stations affiliées à ABC. Donc, qui chapeaute un peu, en bout de ligne, le show Jimmy Kimmel Live. Là, c'est comme ses boss.
Ouais, ben dans le fond, c'est ça. C'est, que
c'est ABC, un peu complexe. Là.
ABC, c'est la grosse chaîne qui ensuite va vendre l'émission à des petites chaînes régionales, dont Sinclair est propriétaire d'une série de stations de télévision
exact.
À la grandeur des États-Unis.
Fait qu'eux autres, s'ils décident qu'ils veulent plus le voir, Jimmy Kimmel, ben il n'y a plus grand monde qui va voir Jimmy Kimmel.
Exact.
C'est un peu ce que ça veut dire. On a dit que ses propos étaient inappropriés et insensibles, puis on lui demande de s'excuser. Ça, c'est la première condition, des excuses. Puis en passant, à date, Jimmy Kimmel dit non, je ne m'excuserai pas.
Okay.
La deuxième condition, puis tu sais, les excuses, y a-tu à s'excuser ou pas? Tu sais, moi, des fois dans la vie, je me dis, tu choisis tes combats. Mettons qu'on te demande juste de t'excuser, même si dans ta tête, tu peux peut-être te dire, je vois pas pourquoi j'ai à m'excuser. Pile un peu peut-être, c'était... puis excuse-toi. Mais la deuxième condition, on lui demande de faire un don considérable à la famille de Charlie Kirk et à son organisation Turning Point USA. Et ça, je la comprends pas.
Je comprends pas parce qu'il était même pas question de Charlie Kirk dans ses propos. Il était question de la récupération politique que le mouvement MAGA fait du présumé tueur de Charlie Kirk.
Et là, tu demandes au gars de faire non seulement un don à la famille, mais à l'organisation de Charlie Kirk, Turning Point, qui clairement a une ligne directrice politique loin de celle de Jimmy Kimmel. Celle-là, je la comprends pas.
Ben, tu vois, je trouve qu'une telle chose, parce que là, tu me l'apprends, le fait que là, je réagis comme à chaud, là. Ça vient prouver le point de Jimmy Kimmel, qu'on est en train de faire une récupération politique d'un assassinat qui, tu sais, ça, là, jamais, jamais que je serais pour une affaire comme celle-là, je veux dire un assassinat, là, jamais, jamais que Charlie Kirk méritait de, quiconque mérite de mourir pour ses idées, jamais. Pas en Amérique du Nord, jamais, 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 jamais. Ça n'a pas de bon sens.
Nulle part, là, mais c'est encore
ça. Non, mais je veux
plus
dire,
invraisemblable.
Ben oui, non,
ouais.
T'as raison, je dois vraiment...
J'ai fait la même erreur que toi la semaine passée, mais
oui.
Fait que c'est pour ça que je...
Oui, c'est ça, mais tu sais, nulle part sur la planète, quelqu'un mérite de mourir pour ses idées, jamais. Jamais, 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 jamais. Merci de me ramener à l'ordre. Ceci étant dit, ce que Jimmy Kimmel dénonçait, c'était la récupération politique qu'on est en train de faire de cet événement-là. Et en demandant de faire un don substantiel à l'organisation et à la famille, c'est de la récupération politique. Fait que ça vient comme prouver le point de Kimmel.
La famille, c'est... Regarde, au pire...
Est-ce que la famille veut ça? Est-ce que la famille... Est-ce que l'organisation veut ça? Est-ce qu'on l'a à tout le moins consulter ces gens-là avant de prendre leur nom.
Bonne question.
Puis d'aller, tu sais...
Mais tu sais, l'organisation, c'est tellement ironique de demander au gars qui a juste peut-être mal tourné une phrase, puis même ça, c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus.
Non,
là.
Exact.
Mais de faire un don à l'organisation du gars qui a des idées qui sont souvent très, très, très à droite, alors qu'on sait que Kimmel n'est pas dans ce sens-là, c'est très particulier.
Alors, on veut exactement mettre Kimmel dans une boîte et on lui donne des conditions qui sont absolument insensées et pas alignées avec qu'est-ce que lui essaye de faire. Fait que
exact.
Moi, si jamais il accepte ces conditions-là. Mais en même temps, c'est Sinclair. Puis Sinclair a tout à fait le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils décident eux autres, ils ne le diffusent plus. Maintenant, qu'est-ce que ABC va faire? Peut-être
c'est
qu'ABC, tu sais, va dire... Ben écoute, on l'a suspendu, si ça, puis on va y aller avec des une façon de le réintégrer ou pas. C'est ABC qui va décider ultimement.
Oui.
Puis on verra qu'est-ce que les stations régionales feront par la suite.
Catherine Bachand, avant de te laisser partir pour le week-end, je veux qu'on se parle de ce qui va se passer ici à Québec lundi matin. Au moins pour le prochain lundi, jusqu'à preuve du contraire, mais là, on semble pas s'enligner pour que ça arrive pas. Là. Lundi matin, premier... C'est quoi le lundi infernal? Oui, c'est ça. Fait que lundi, premier lundi infernal. C'est quoi ça, le lundi infernal, les lundis infernaux?
Donc, c'est un genre de service à l'auditoire qu'on veut vous faire pour que vous le sachiez. Si vous n'étiez pas au courant, lundi qui vient, ce serait le premier d'une série d'autres lundis. Où est-ce que entre 5h et 9h, des camionneurs vont lancer des moyens de pression pour dénoncer la crise qui secoue leur industrie? Et ces moyens de pression, c'est bloquer et ou ralentir considérablement la circulation sur les ponts. Oui, les ponts ici à Québec, mais également Montréal, Gatineau, Trois-Rivières. Il est question également de ralentir considérablement des artères stratégiques aussi. Si ce n'est pas un pont, ça va être une artère stratégique dans d'autres villes.
Mais ici, les ponts, on s'entend que c'est ce qu'on vise.
Ouais. Sachez que cette manifestation, ce moyen de pression est encadré, il est légal, ils ont demandé leur autorisation, il y aura une voie d'accès pour des véhicules d'urgence, pour des personnes qui auront besoin de circuler. T'sais, ils font les choses dans les règles de l'art, mais entre 5h et 9h, lundi qui vient, cette manifestation-là qui va vraiment causer... Ça va être vraiment le bordel. Donc, si vous êtes un employeur actuellement, commencez à avoir peut-être des conversations avec vos employés qui doivent circuler d'un bord à l'autre de la rive. Je pense, moi, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, à des gens qui doivent avoir une intervention chirurgicale, exemple.
Que tu attends depuis 6-7 mois. Là.
C'est ça, ben, que tu ne seras pas capable de te rendre. Faut-tu que tu couches sur la rive nord, finalement? Faut-tu,
Il y en a qui vont se passer?
Ben oui.
Probablement qu'il y en a qui vont s'arranger puis qui vont... parce que là, c'est de 5h à 9h. J'ai hâte de voir. Tu sais, d'habitude, le trafic à cette heure le matin, puis c'est drôle parce que je l'ai vu évoluer au fil de mes années. Ça fait juste 4 ans que je suis là. Mais en 4 ans, j'ai vu une bonne différence. Quand je suis arrivé, avant 7h, ça allait super bon, super bien passer de la rive sud à la rive nord le matin. Alors que là, déjà à 6h10, 6h15, commence à avoir un ralentissement. J'ai hâte de voir lundi. Là. Ouais. Est-ce qu'à 5h30, le matin, on va déjà être en heure de pointe?
Oui.
Lundi, si tu veux pas arriver en retard à la job, c'est ça, pars chez vous à 4h30, 5h. Là.
Ben, ou trouve une façon d'arriver plus tard. Ça dépend toujours de ce que tu as comme travail. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais sachez que ça va être là. Tout ça, c'est organisé par un collectif qui s'appelle Assez, c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage. Vous pouvez les suivre sur Facebook si vous voulez. Cette opération-là va se répéter chaque lundi, tant et aussi longtemps que les revendications du groupe vont demeurer sans réponse. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est un retour des patrouilles du contrôle routier Québec. Les patrouilleurs routiers du Québec, depuis un jugement du tribunal administratif du travail au mois de mars dernier, sont confinés à leur bureau. On a déterminé dans ce jugement-là que la réalité des contrôleurs routiers a énormément évolué. Ils font face maintenant, quand ils vont intercepter des camions lourds sur la route et tout ça, à des gens qui sont parfois criminalisés, qui transportent de la marchandise volée ou, tu sais, de la drogue et tout.
Fait que c'est rendu trop dangereux pour eux autres, en gros.
C'est rendu trop dangereux pour eux et ils ne sont pas équipés pour faire face à leur nouvelle réalité. Il est question de les armer, ces gens-là, pour qu'ils puissent bien répondre à leur réalité. Tu comprends que ça se fait pas de même non plus. Décider de former tout le monde, port d'armes, blablabla, mm-hmm. puis intervenir. Tu sais, admettons, t'es un contrôleur routier, t'as pas étudié pour être un policier, puis intervenir dans différentes tactiques de façon. Tu sais,
puis un des points aussi du job Marceau le matin, c'est OK, une fois que ces gars-là vont être armés, tu penses qu'ils vont demander quoi dans leur négociation?
Ben oui.
Ils vont demander à être payés exactement comme des policiers de la Sûreté du Québec.
Sûr.
Parce que à partir du moment où tu leur mets un gun dans les mains, ils deviennent quasiment littéralement des policiers de la SQ.
Oui.
Puis la différence de salaire, je pense, c'est un genre de 30-40 000 piastres, là. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où tu mets des guns dans les mains à ces gars-là, ils vont demander. Puis on a parlé au président du syndicat, de mémoire, c'était le président du syndicat, qui nous disait « Non, ça va pas être dans nos demandes. »
Ouais, non.
Ouais.
Moi, j'ai des informations qui me disent le contraire, justement. Là,
ben, il serait fou de pas le demander. T'sais.
Ben, voilà. T'sais, on peut peut-être le comprendre. Puis, dans le fond aussi, c'est que... Ce que le collectif dénonce également, c'est la fin de cette pratique qu'on appelle le Driver Inc.
Ouais.
Le Driver Inc., j'essaie de vous le simplifier, c'est que plutôt que d'avoir des camionneurs salariés, employés d'une entreprise, on force maintenant les camionneurs à s'incorporer. Par le fait même, l'entreprise qui va lui donner un contrat n'a pas à payer de charges sociales, donc économise beaucoup. Puis là, ben, va pouvoir négocier peut-être à la baisse des services. Après ça, le chauffeur en question n'a pas nécessairement toutes les obligations de formation, de compétences, d'assurance, ne sera pas payé pour ses heures supplémentaires et tout ça. Et là, ça cause des affaires, un genre de Far West sur la route.
En
et
Ontario,
on le voit.
Des écoles, des entre guillemets écoles qui entre guillemets, forme des camionneurs, mais on se rend compte que finalement, c'est que c'est pas de la grosse formation. On donne un permis, puis là, c'est du petit crossaillage, puis là, ça cause des accidents. Là.
Exact. Puis tu sais, là, on veut pas non plus y aller dans du profilage, mais il y a des histoires qui sont sorties également au sujet d'immigrants qui arrivent ici sous la base d'un permis quelconque d'étudiants ou de je sais pas quoi, qui vont ramasser un permis d'une boîte de Cracker Jack semi-légale pour faire du transport de marchandises
là,
avec
un
poids lourd, puis il y a des accidents mortels qui se sont produits avec des conduites dangereuses de
cette façon.
Il
y a eu suspension, je pense que c'est
185 du côté de
permis.
L'Ontario. Ouais.
Ça, c'est le début, là. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. 185 permis qui ont été suspendus, je crois que c'est pour 3 mois, le temps de faire enquête. Mais c'est le début, là. Ça veut dire que c'est 185 personnes, là, potentiellement, qui étaient au volant d'un camion lourd sur nos routes.
Ouais.
Qui n'avaient pas les formations nécessaires, l'enquête saura nous le prouver, là, on reste au conditionnel, mais qui se promenaient sur nos routes au volant de camions lourds. Là.
Oui, exactement.
Puis qui causaient dans certains cas des accidents.
Et dans certains cas des accidents mortels.
Pis, c'est grave.
Puis ici au Québec, ben, depuis le mois de mars, tous ces délinquants-là se promènent sans que personne ne puisse les intercepter.
Parce qu'ils sont poignés dans leur...
Parce que les contrôleurs routiers sont assis puis ils n'ont pas le droit de sortir en raison de cette décision du tribunal administratif du travail. Alors, vous pouvez être en accord ou en désaccord avec ce que réclame le collectif Assez, c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage.
Ce qu'il réclame, dans une forte majorité, je suis persuadé que le monde est en accord.
Oui, parce que en quelque part, c'est la sécurité des gens sur la route.
Oui. Fait que ce qu'ils réclament, là, puis s'il y en a qui sont pas d'accord, 88-971-101, mais je pense que leur revendication, là, je vois pas comment quelqu'un pourrait pas être en accord.
C'est ça.
Mais de venir mettre la population dans la marde tous les lundis matins pour avoir de l'attention, puis je comprends le point que peut-être que s'ils faisaient pas, il y en aurait pas d'attention.
Ouais.
Mais non,
ben
arrêtez.
Tu sais, dans les discussions qu'on a eues en ondes et hors d'ondes, c'est que On est vraiment tanné d'être pris en otage dans des conflits de travail. Il y en a eu beaucoup, puis là, j'en nommerai pas parce que je veux pas en pointer un plus qu'un autre. Mais pensez-y, là, il y en a eu plein de conflits de travail.
Le RTC, Poste Canada, t'en as-tu d'autres? On peut y nommer.
Ben, les profs aussi, puis tout ça. Ouais. Il y en a eu, là.
Oui.
Puis ça fait en sorte que, ben, au final, c'est la population qui est prise en otage parce que les gens se parlent pas ou on reste campé sur nos positions ou parce qu'on tire la couverte de notre bord. Puis qu'on n'a pas l'impression, nous, le citoyen, même si, oui, ultimement, quand tout ça sera réglé, nous, en tant que conducteurs ou usagers de la route, on va être plus en sécurité. Actuellement, on se fait prendre en otage par des choses comme celle-là. Je suis certaine que les gens du collectif auraient aimé éviter ça. Peut-être qu'ils espèrent, pendant toute la fin de semaine, réussir à obtenir les rencontres qu'ils souhaitent avec le fédéral et le provincial pour ne pas en arriver là. Mais
Cause est tellement noble, puis c'est tellement évident pour n'importe qui que les demandes sont nobles que je peux pas croire que ce soit nécessaire de faire ça lundi. Je peux pas croire. Je peux pas croire qu'ils ont vraiment essayé. Plate pour eux autres, j'aurais aimé ça leur parler, mais ils m'ont jamais répondu. Fait que
ils ont refusé tes demandes d'entrevue?
Ben, ils ont pas répondu. Je pense qu'ils aiment pas ben Marceau. Là. Fait que je sais pas s'ils ont fait un lien.
Ben ouais, j'allais dire, parce que ils ont l'air très vocaux sur d'autres médias. Ouais. Fait que,
j'étais surpris. Pourtant, j'ai pris le courriel à la bonne place. J'ai juste fait un copier-coller. Fait que s'ils veulent me parler, ça va me faire plaisir de leur jaser puis d'essayer de comprendre. Puis ils m'expliqueront les démarches qu'ils ont. Ça va me faire le plus grand des plaisirs de leur laisser expliquer pourquoi ils vont faire chier la population lundi matin. Là. Si on a même la place d'ici à la fin du si jamais. 88-971-101, textez-moi, puis on va s'appeler. Mais à date, les textos que je reçois, ben, c'est du monde qui comprend les revendications, mais qui est écœuré de se faire prendre en otage. C'est ça,
exact.
Les textos qu'on a.
Voilà. Puis tu sais, ça a été démontré aussi, chiffre à l'appui, qu'au Québec, c'est ici qu'on a le plus de débrayage puis de grèves qui paralysent ici et ça. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile de finir par se rallier à une cause quand c'est toujours nous qui payons le prix, aussi nobles les intentions soient-elles.
Merci beaucoup, Kat Bachand. Je te laisse partir dans ta fin de semaine.
Merci, bonne fin de semaine à toi aussi. Puis, salut la gang de Boulevard.
Puis la gang de Boulevard, partez de bonne heure si vous avez à traverser les ponts lundi matin, ce lundi et possiblement les autres. 11h54 minutes dans le Point de Max. Au retour,
c'est 10h54, t'as dit 11h54.
Ah, moi, je m'en allais déjà en fin de semaine aussi.
J'ai vu, j'étais comme, je suis dans le trouble.
Une chance qu'elle est là. Toujours besoin d'une femme pour me surveiller, puis c'est pour ça qu'Audrey Pinchot s'en vient dans le Point de Max. Puis même deux femmes, parce que Mademoiselle V sera là aussi pour le segment Open Mic. Il est, dans 3 secondes, 10h55 à Boulevard. minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. C'est vendredi. Et vendredi, ça veut dire des affaires. Ça veut dire c'est le temps de la fin de semaine. Ça veut dire on est de bonne humeur. Ça veut dire Mademoiselle V est là pour le segment Open Mic. Mais bien sûr qu'Audrey Pinchot est là aussi pour l'Open Mic. Ça va bien, Audrey?
Matin! C'est vendredi, ça peut pas aller mal.
Mais sais-tu qu'est-ce que ça veut dire aussi le vendredi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Les nouveautés musicales.
Oui,
y en a-tu une aujourd'hui que là, tu voudrais entendre?
C'est-tu celle que tu veux entendre, que tu veux que je te fasse entendre?
Non, moi, je peux te faire entendre ce que je veux. C'est moi qui contrôle. Je veux t'offrir l'occasion de me partager. Est-ce qu'il y a une nouveauté musicale aujourd'hui, Audrey, qui te ferait plaisir?
Il y en a beaucoup que j'aime dans ce qui est sorti aujourd'hui, mais il y en a une que j'écoute depuis ce matin, puis c'en est une quétaine. Puis je sais que tu l'aimes aussi.
C'est celle-là que je pense?
Friends Don't, d'Alexander Stewart et de Lauren Spencer Smith.
Attends, moi, j'adore Alexander Stewart depuis des années. J'adore Lauren Spencer Smith depuis des... Comme moi, là, Alexander Stewart, je suis arrivé un petit
peu
plus tard
dans
la vague.
En passant, là, c'est des tunes... Tu sais, c'est le genre de voix et de tunes pour pleurer à côté la tête, ça vide dans le char pendant qu'il pleut là, quand t'es en peine d'amour. Là.
Lauren Spencer Smith, je l'ai connue à commencer à peine là, sur
même
TikTok.
Même chose, ouais.
Puis je pense qu'à Phono, vendredi passé, on a eu le droit à la première fois ever que cette toune-là a été performée.
Tu l'as vu en direct?
Évidemment, c'était sans Lauren Spencer Smith qui n'était pas là, mais Alexander Stewart était de la programmation de Phono cette année et il a fait cette tune-là. Et je suis pas mal certain que c'est la première fois ever que Friends Don't de Alexander Stewart et Lauren Spencer Smith a été faite.
Lauren Spencer Smith, on l'a vu sur les plaines. Fait,
avant Osher.
Absolument, cet été, une voix exceptionnelle. C'est sûr que c'est moins... Tu sais, les auditeurs qui aiment le rock pur et dur, on n'est pas dans votre talpe pantoute, là. Mais l'agencement de ces deux belles voix-là, pour ceux qui aiment les deux artistes, c'est hot. Fait que ma route a été accompagnée de cette nouveauté musicale-là ce matin. Mettons que je suis bien honnête, là, ça a été mon coup de cœur.
Pour les amateurs de rock, je vais vous rincer les oreilles un peu. Aerosmith en collaboration avec Youngblood.
Je sais! Plein d'affaires intéressantes aujourd'hui. Le Hardy qui est sorti aussi du stock, Nine Inch Nails, Phineas, le frère de Billie Eilish, qui est sur une toune avec The Favors, puis Aishi, j'espère que je le prononce bien, c'est une artiste que je connaissais pas pantoute. Mais bref, vraiment de bonnes et de belles nouveautés musicales. Josh Ross, on va certainement faire un gros tour cet après-midi, comme d'habitude dans
ouais,
le tour.
Puis si j'ai le temps, je vais faire aussi un tour avec vous d'ici midi.
Mike. Just in time for open mic. Dans le point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Et après ce petit mini-tour de nouveautés musicales, on saute vraiment dans l'open mic avec Audrey Pinchot et Mademoiselle V parce que c'est vendredi.
C'est un sujet qui est quand même, j'ai envie de dire, lourd pour un vendredi, mais il y a l'aspect un peu plus lourd, sauf que je pense qu'il y a l'aspect prévention là-dedans aussi. Si vous avez des jeunes enfants qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont, je sais pas, à l'adolescence, les hormones dans le tapis, qui partagent des photos, je pense que ça peut vous intéresser. En toute transparence, plus jeune, j'ai été épaisse, solidement. Il y a un moment dans ma vie où j'ai partagé avec une personne que je pensais de confiance, hein, parce que quand t'es jeune, c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. T'es un peu page blanche et naïf et aveugle par rapport à ce genre de choses-là. J'ai partagé des photos très, très privées. J'ai été chanceuse, moi, c'est jamais rien passé avec ça. Ça a peut-être été montré à deux, trois chums de gauche, j'imagine, dans une chambre d'hockey.
OK,
mais
je pensais
que c'est pas...
Quand tu disais que tu as été épaisse, je pensais que ça avait mal fini.
Ah non, mais j'ai été épaisse de partager ces photos-là. Je le dis, je le pense encore aujourd'hui.
Ah,
je
ouais.
Dis, réfléchis à qui t'envoie des photos puis de quelle manière tu les envoies. Je sais, Max, que tu as des pratiques aussi.
Ben non, mais je veux dire, je pense que les nudes, comme on les appelle, font partie à cette heure de notre... Tu sais, avec Snapchat, là, que l'impression que ça disparaît après 10 secondes, alors que des fois, ben c'est malheureusement pas toujours vrai.
Ben, ça se screenshot très rapidement.
Ouais.
Je pense que c'est une question d'être conscient de ce que tu fais, de la façon dont tu le fais, puis, tu sais, mets pas ta face dans photo, idéalement. Essaie de qu'on voit pas le tatou qui est
si
exposé
t'as
à tous.
Si un tatou sur la jambe gauche, en arrière, moi.
Tu comprends? Prends des notes, Max. Ça se fait.
Tatou, jambe gauche, je sais qu'est-ce que je fais.
Non, mais ça se fait, mais quand je dis que j'ai été épaisse, c'est que moi, c'était avec un amoureux, tu sais, que je partageais ça.
Ben, fait que t'as pas été épaisse, c'est correct.
J'ai été épaisse dans la mesure où plusieurs années plus tard, 10 ans plus tard, ça fait pas si longtemps que ça, mettons, en frais d'année, où j'ai dû reparler à cette personne-là en disant « J'aimerais vraiment que tu les effaces de ton téléphone. »
Parce qu'ils avaient encore.
Puis j'étais mineure.
OK, attends, OK, wow.
Tu sais, il s'est rien, il n'y a pas eu de partage. Le point est que j'ai eu la frousse en me disant « Hey, là, moi, je fais une job qui est un peu plus publique. Cette personne-là a des photos de moi quand même. »
Mais
là,
vois qu'il avait encore ça dans son sel.
Oh, regarde-le.
Il voulait les vendre.
J'ai pas de réponse par rapport à ça, mais j'ai su qu'ils les avaient encore.
En passant, c'est correct de le faire en étant majeur. Mineur, c'est non. Mais c'est vrai, je fais juste à dire, c'est vrai que c'est illégal. C'est de la pornographie juvénile, c'était mineur, littéralement.
Sauf que là, faut pas se mettre la tête dans le sable.
Oui, ça existe.
Ça commence mineur et ça commence très jeune.
Je sais. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas supposé.
Et on aborde ce sujet-là parce qu'il y a des articles qui sont sortis dans les derniers jours concernant le fait qu'il y a des ordonnances de retrait chaque semaine depuis. Parce que, tu sais, pour vous donner une idée, là, c'est un article du Journal de Québec, OK? Ce qu'on dit, c'est que le nouveau recours rapide pour empêcher le partage de photos intimes sans consentement a été utilisé chaque semaine depuis sa création en juin dernier. C'est l'adoption du projet de loi 73 dont on parle ici, puis Mademoiselle V, tu vas pouvoir nous faire un peu l'étendue de tout ça, mais c'est pour donner une idée d'à quel point il y en a des photos qui se partagent pour que chaque semaine, les demandes soient faites. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que ce matin, c'est un petit rappel collectif qu'on se fait, puis ça vous donne une idée aussi d'à quel point c'est présent. Je sais qu'on appelle ça aussi du revenge porn.
Ouais.
Val, moi, dans ma tête, ça, c'était pas mal plus... tu vas sur Pornhub, puis c'est des vidéos...
Pourtant, les photos coquines ou les photos nues, c'est de la porno.
C'est considéré aussi comme une vengeance pornographique.
C'est ça. Donc, si on les utilise contre le gré de la personne, eh bien, c'est considéré comme de la revenge porn. Et c'est le... Et puis, même à ça, on parlait tantôt de partager des photos, là, on l'a toutes faites. On l'a toutes faites à un moment donné, à un certain niveau, que ce soit un décolleté ou un pied, hein? Je ne sais pas trop, mais on l'a toutes faites à un moment donné. Mais là, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je peux carrément prendre des photos de toi sur Internet, ma belle, découper ta face, puis mettre ça sur un beau vidéo où il y a un couple qui fait l'amour.
Le deepfake qu'on appelle.
Exactement. Ça en fait partie aussi, puis c'est tellement rendu facile, fait qu'il suffit même pas d'avoir des photos privées d'une personne pour la faire sentir sale, pas bien, trahie.
Dans la sextorsion aussi, on en a parlé souvent, mais ça...
Oui, bien la loi 73, c'est ça. On se souvient, c'est entré en fonction le 4 juin dernier, mais c'est voté depuis décembre l'année dernière. Donc, on a mis un petit bout avant de l'utiliser, si on veut. Ils peuvent remplir un simple formulaire en ligne et puis ils vont obtenir un retrait d'ordonnance, là, une ordonnance de retrait plutôt. Et ce qui est le fun, c'est que les plateformes qui ne collaborent pas risque une amende extrêmement salée qui peut aller jusqu'à 50 000 $ par jour.
OK, c'est quand même élevé.
Par jour. Ils peuvent être doublés en cas de récidive. Fait que ça veut dire que, puis en plus, les dirigeants d'entreprises qui hébergent ce type de revenge porn-là, si on veut, peuvent être personnellement tenus responsables, faire face à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 18 mois. Fait que quand même, ça va conscientiser, je pense, la plateforme, parce que, je veux dire, on peut même pas le savoir, en fait, si nos photos sont utilisées.
Non,
quand
t'as
on
aucune
y pense.
Idée. Mais tu sais, prends juste un parallèle qui est super simple. Est-ce que vous vous êtes déjà fait prendre votre identité sur les réseaux sociaux?
Ah, tellement.
Tu le sais pas avant que quelqu'un finisse par te l'envoyer. Là.
Moi, toi, ça t'arrivait aux 3 jours à un moment donné.
Ouais, l'année passée, c'était ridicule. Là. Puis ça n'a pas rapport avec le fait d'avoir une job publique ou pas. Là. J'ai des amis à qui ça arrive aussi. C'est juste c'est quelqu'un qui prend tes photos puis qui crée un autre compte pour rediriger vers des liens un peu louches, là, faire de la fraude. Fait que c'est la même chose pour ce genre de contenu intime-là. Tant que personne ne t'avertit pas, t'es pas au courant, puis...
Mais je savais pas, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà écrit pour me dire que j'étais en couple avec lui depuis des années via Internet. Et puis, je comprends pas du tout ce que tu dis, là.
Tes images avaient été utilisées.
Exactement, sous l'identité d'une autre personne. Fait que j'étais mariée avec quelqu'un au Maroc, puis j'en avais aucune idée.
Là, pourquoi personne prend mes images? Moi, c'est quasiment insultant.
Ça doit être plus facile chez les filles, je sais pas. Ils utilisent les belles photos, puis ils vont arnaquer.
Question que plusieurs se posent, Val, puis je me la suis déjà posée aussi. Si tu prends des photos, puis tu les envoies à quelqu'un, puis tu es consentant, pourquoi c'est pas possible d'être publié ailleurs? Comprends-tu ce que je veux dire au niveau légal? Là, c'est dans le sens que... Puis en même temps, on s'entend, pas d'accord, là, mais... Il y a des gens qui se posent la question, ben oui, mais t'as fait le choix de partager ces photos-là, rendues là, c'est sur Internet ton problème, tu sais.
En plus, c'est un fantasme très commun, hein, de vouloir se filmer, de se photographier. C'est quelque chose que tout le monde... Oui, ça fait des grands yeux, comme
non,
ça, tu savais pas.
Je suis surprise.
Coquine.
Je te jure, j'ai jamais fait ça. T'as-tu déjà fait ça, Max?
De quoi, ça?
T'as filmé.
Filmer, faire quoi?
Ben, en train de faire des
jardinage.
Affaires.
Seul ou à deux?
Ben, tu seul, à deux?
Réponse générale, oui.
Oui, ben, c'est très commun, oui.
Pour vrai?
Oui, ben ça touche un peu le voyeurisme, voir les autres et l'exhibitionnisme.
C'est quoi
que ça,
après? Tu
l'envoies à la personne désirée, là.
Ah ouais?
Ou sinon, ben si vous êtes deux, tu peux le garder entre vous pour quand vous n'êtes pas ensemble. Là, vous le gardez.
Ouais. Puis là, à un moment donné, vous vous séparez. Puis là, ça finit sur Internet.
Ah, c'est tannant, ça. Hein?
Ça, c'est pas cool.
Ça, c'est ce que tu désires pas. Là.
Ou des fois, ça finit. Puis ces vidéos-là sont tout simplement supprimées du téléphone de chacun par respect pour tout le monde impliqué.
Ouais. C'est-tu genre pour te créer de la pornographie personnalisée?
À qui tu parles?
Ben à toi, parce que t'as répondu oui, puis moi j'ai pas fait ça, fait que je cherche à comprendre.
Ouais.
C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi pour les couples à distance, là, on va se le dire. Là.
Ben c'est ça.
J'ai entre autres déjà rencontré un couple dont le gars est militaire, tu sais, il est à l'extérieur du pays tout le temps. À un moment donné, il a le goût de voir sa femme, pas juste la pornographie qui représente quelqu'un qu'il connaît pas. Et puis là, ben t'envoies ça dans les airs, là, ça, là, jusqu'en Afghanistan, là, ça peut être filtré partout, je sais pas. Moi, je suis certaine qu'il y a moyen de mettre la main là-dessus, là, ou des pirates informatiques, je sais pas.
Mais d'après moi, il y a pas juste ce militaire-là qui a vu cette vidéo-là.
Ben c'est ça. Fait que faites attention, mais la question que tu poses, elle est légitime. Pourquoi est-ce que si c'était voulu, si j'ai envoyé une photo moi-même à mon chum, pourquoi lui, il n'a pas le droit de la publier?
C'est vrai que c'était ça la question tantôt, avant qu'on parte.
C'est pas grave. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on part du principe que après la rupture, ce qui était intime va demeurer intime. Ça ne doit pas être partagé à personne. Et puis, ben, le consentement sexuel, ça ne couvre pas automatiquement le droit de filmer ou partager des images. On s'entend là-dessus. Et tu sais, à moins que la personne ne soit pas consentante à le partager, on ne partage pas, bien évidemment. Donc, ce n'est pas d'être consentant à vouloir faire la photo, mais c'est d'être consentante à le partager à des millions de personnes. C'est autre chose.
Non, c'est
là où ça
game,
marche plus.
Mais oui.
Effectivement. Et puis, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente pour quelqu'un qui est atteint de ce type de coup-là. Qu'est-ce que ça représente au niveau psychologique, au niveau physique et les impacts que ça a sur une personne.
Je capoterais.
Ça doit être lourd, là. À porter, là, tu sais, de dire que ton intimité est complètement brisée.
Tu te demandes qui a vu ça, qui l'a pas vu. Toi, tu l'as-tu vu? Et tu me regardes bizarre, c'est-tu parce que t'as vu ça? Tu dois virer complètement débile.
Bien, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une certaine paranoïa qui s'installe, veut pas, parce que là, tu te dis, il y a eu une petite échappement, là, ça s'est infiltré quelque part, combien il peut y en avoir d'autres? Fait que les symptômes, là, peuvent aller, c'est très, très large, c'est une perte de confiance, évidemment, en la personne qui l'a partagé, mais aussi envers tous les autres hommes ou femmes que tu pourrais rencontrer dans le futur. On a toujours un doute, est-ce que cette personne-là va aussi me faire la même chose? Bon, il y a une honte qui est associée à ça, une peur des futures relations, c'est surtout ça que j'ai ressenti, puis un désintérêt pour la sexualité, puis ça, je trouve ça plat. Parce que, évidemment, la personne se dit, si je me mets dans une position de vulnérabilité avec un futur conjoint où je me présente totalement nue, puis quand on prend des photos, est-ce que ça va être automatiquement utilisé contre moi? Et puis, j'ai trouvé, en fouillant, un extrait d'une jeune femme qui a été victime d'exactement ça. Puis comme moi, ça ne m'est pas arrivé à ce niveau-là, je préfère la laisser parler pour expliquer un petit peu son histoire. Ça dure à peu près une petite minute. Vous allez voir à quel point est-ce que ça a des impacts, surtout sur cette jeune femme-là qui était très jeune à l'époque.
J'ai rencontré un garçon quand j'avais 14-15 ans au collège. Donc, au début de la relation, ça se passait bien. On n'avait pas de problème particulier entre nous. Et au bout de 5-6 mois, ça a commencé à vraiment se dégrader. Il a commencé à me dire « Ouais, j'ai une vidéo de toi. Si tu me donnes pas de sous, je vais les poster. » C'était une vidéo à caractère pornographique. Cette vidéo, il l'a envoyée à des gens du collège, à des gens de l'extérieur. Et en plus, quand t'as 15 ans, tu sais pas trop ce qui est normal ou pas normal dans une relation. Et du coup, ça va engendrer des rumeurs, du harcèlement. Ce qui se disait sur moi, c'était que j'avais fait des choses avec lui, que j'étais une... Et au collège, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de venir. Et après, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les choses que j'aimais et que je sorte la tête de l'eau. Les conséquences que ça a eu sur moi, c'est déjà la perte de poids. J'étais descendue à 44-45 kilos. J'ai eu un ulcère aussi, avec le stress, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Donc, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit non, je vais porter plainte. Je suis assez fière de moi et mon parcours parce que ça m'a permis de gagner en maturité, d'être plus forte dans ma tête. Et surtout, je m'en fous du regard des gens maintenant, en fait. Je fais tout ce que j'ai envie de faire et je me préoccupe plus de savoir si ça va plaire aux autres ou pas.
Et voilà. Ce qui est le fun aussi de se rappeler, c'est qu'elle dit... Elle ne sait pas ce que c'est normal ou pas dans une relation.
Ça arrive. Quand tu es jeune de même.
Exactement. Et on ne sait pas, justement, on se dit, est-ce que c'est normal qu'il le partage avec ses petits amis à côté, qui rigolent de moi, qui trouvent ça le fun ensemble? T'sais, on se pose ces questions-là. Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que ça ne touche pas juste cette jeune fille-là. Ça touche ses études, ça touche sa famille, ça touche son futur emploi, possiblement. Ça touche toutes les sphères de sa vie, toutes ses amies. J'ai écouté le truc au complet. Elle a perdu tous les gens autour d'elle pour une simple clique, un clic de 2 secondes qui a détruit une grosse partie de sa vie.
Je disais d'entrée de jeu que j'ai le sentiment que c'est un rappel aussi pour les parents d'ados. T'sais, parce que j'ai l'impression que demain matin, mettons, là, Max, il y a une de tes photos qui leak, là, ça va faire... Pas ça intéressera pas personne, là, on se continue. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu es au secondaire, c'est ton environnement constant.
Ouais.
Fait que t'es pris là-dedans. C'est fait pour ça, le secondaire, sa mémère, c'est épouvantable. J'ai l'impression que c'est un micro-climat qui fait que probablement c'est pire encore. Puis t'es jeune, tu développes ta confiance. C'est tout qui est affecté, là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, je pense que j'enverrai une photo puis je me ferai prendre, puis ça sera montré dans un groupe d'amis. Je suis en tabarnouche, pour vrai, là. Ben. Puis je vivrai un petit 2 minutes, puis je serais pas bien, puis je serais... Mais à un moment donné, je veux dire, ma vie continuerait, puis ce serait un malheureux événement du passé, là.
Ben oui, qui peut avoir des conséquences assez importantes. Si on l'a entendu, elle a carrément arrêté d'aller à l'école. Donc, ça peut jouer sur sa carrière éventuellement. Et ce qui est important, c'est la prévention. La loi 173, ça ne servira à rien s'il n'y a pas de la prévention qui se fait. Donc, on va essayer de multiplier les interventions, surtout au niveau du secondaire puis du cégep. C'est là où on
Parce que tu ne peux pas non plus effacer complètement les affaires d'Internet, hein?
Non. Et puis, ce qui est dommage, c'est que la majorité disent que même après l'ordonnance, 50 % du temps, ça revient.
Hein? À partir du moment où ça a été sur Internet, il faut que ce soit sur Internet une minute qu'il y a des gens qui ont pris des screenshots ou des screenshots vidéo, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir ça dans son cell. Puis à partir du moment où quelqu'un a ça dans son cell, ben il y a des chances que ça revienne tout le temps.
Absolument. C'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes à ne pas partager. T'sais, si vous voulez les avoir dans votre propre téléphone puis le montrer à votre petit chum qui est assis à côté de vous, faites-le. Mais partager les vidéos ou les images, c'est vraiment pas une bonne idée. Je sais pas si ça vous tente de pas entendre parler un petit peu des statistiques.
Bien, je suis curieuse de savoir à quel point il y en a. Parce que, tu sais, des fois, je veux dire, on prend un sujet en prise dans les médias, là, on s'intéresse à certains dossiers, on fait que plus on en parle, plus ça a l'air gros. Mais je me demande à quel point il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Qu'on appelle ça de la sextorsion, du revenge porn, peu importe le terme que tu veux utiliser.
Oui. Bien, 1 personne sur 10 a déjà été victime d'une diffusion non consensuelle d'images intimes de soi-même. 80 % d'entre elles sont des femmes.
Ah, puis même là, 1 sur 10, je pense que c'est sous-estimé comme chiffre parce que ça compte pas. Mettons qu'Audrey, tu m'envoies une photo puis que je suis à côté d'un de mes chums puis j'y monte. Ça doit être beaucoup plus qu'une personne sur 10.
Effectivement. Puis les hommes, les femmes sont victimes à 80 % Les hommes le sont aussi, mais souvent un petit peu plus par humiliation. On va souvent voir des tricks où, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Maxime, tu reçois un pop-up d'une fille qui dit voici une photo de mes seins. Puis là, elle dit envoie-moi une photo de ton pénis, par exemple. Puis là, toi, tu te dis j'ai une photo de ses seins, je vais envoyer une photo de ton pénis.
C'est donnant-donnant.
C'est ça. Et puis là, tout d'un coup, tu reçois un message qui dit si je reçois pas 250 $ dans les prochaines minutes, j'envoie ce message-là à tous tes contacts.
Oh non!
C'est extorsion.
Ouais. Voilà. Alors ça, c'est plus une forme d'humiliation, si on veut. Et c'est à ce moment-là que ça touche plus les hommes que les femmes. Les femmes, ça se fait peut-être un petit peu plus par en dessous. Là.
C'est qui, généralement, qui partage ces photos-là? C'est-tu vraiment les ex-chums?
Ben beaucoup d'ex-chums. Souvent, c'est des gens qui connaissent la victime. Tu sais, c'est pas des gens qui... C'est... Qui, 1 personne sur 3... je viens de me mêler dans mes affaires, là. Tu m'as posé quoi ta question?
Je veux savoir, c'est qui partageait ces photos-là souvent?
Ben c'est les jeunes. C'est n'importe qui a une... Toi, là, quand t'étais jeune, là, ça t'est déjà arrivé d'être en colère contre quelqu'un? Mettons, là, tu as un breakout avec quelqu'un, OK? Tu viens de te séparer, là.
Ouais.
OK. Combien de fois est-ce que la revanche prend le dessus? Combien de fois est-ce que la colère parle à la place?
Ben là, moi, je suis pas bien colérique, là. Tu parles pas à bonne personne je veux dire, l'espèce de sentiment de... Ben c'est sûr que je pense que quand t'as une peine d'amour, surtout jeune, tu fais que la personne est autant mal que toi.
Exactement.
Ça, je pense que c'est le principe de base, là.
C'est un petit peu d'une immaturité, si on veut, mais ça arrive dans tous les couples qui se terminent. Donc, Ce qui m'intrigue énormément, moi, là-dedans, c'est à quel point est-ce qu'on peut aimer quelqu'un puis le détester quelques mois plus tard.
C'est la grande question.
Ça. Voilà. Alors, cette colère-là mène à ce type de revanche-là. Puis, d'un fois, les personnes qui sont un peu immatures ou plus jeunes ou qui sont juste bien en colère, là, puis qui n'ont pas la maturité émotionnelle, vont utiliser ce genre de truc-là. Fait que ta réponse était large, hein, mon affaire, mais
non, mais c'est parfait. Yoga, tu vois, sur le Twitch, il y a des gens qui réagissent, puis il y a quelqu'un qui nous dit « Personnellement, sur mes trois ex-blondes, les trois avaient été victimes de ça. » Fait que, tu sais, Max, tu disais, c'est pas mal plus qu'on pense effectivement.
70 % des victimes rapportent une perte de confiance dans leur future relation amoureuse, ce qui est énorme. Une victime sur trois va développer des symptômes d'anxiété graves reliés à la sexualité. Et ça, je peux en témoigner parce que ça finit souvent dans mon bureau. Et c'est correct. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous arrive et que ça vous impacte sur votre vie amoureuse, votre vie sexuelle ou juste votre vie de dating en général, et allez voir quelqu'un, hein, informez-vous, c'est la meilleure façon de vous en sortir. Et puis, tu avais raison, Audrey, depuis l'apparition du projet en 2024, il y a en moyenne une ordonnance de retrait par semaine qui a été faite au Québec seulement. C'est ça. Et je ne sais pas si tu savais, mais une image intime peut être copiée ou partagée plus de 200 fois en 24 heures.
C'est ça qui est capoté. T'sais, Max parlait de screenshot. On a eu l'exemple sur tout autre sujet là, dans l'actualité des dernières semaines. Là, on va parler d'Isa Desjardins puis de tout ce qui est sorti par rapport à son ex-conjoint, son OnlyFans. Ça prend 3 secondes, même si tu retires des stories, elles sont déjà partout. Mm. Puis là, je prends ça comme exemple, mais il y en a 1000 autres. Là.
Ben,
tu
oui,
regardes
les
sites à potins, c'est nourri de ça. Là.
Ben oui, entre autres, je pense qu'un des plus célèbres est probablement Black China et Rob Kardashian, qui avait publié des photos intimes de la dite dame à ses 9 millions d'abonnés sur Instagram. Ça a frappé fort parce qu'évidemment, 9 millions, c'est énorme. Et il y a même en Californie une femme qui a sexté à son mari puis qui a vu ses images diffusées par sa belle-mère sur Internet. Ouais. Ça a été mis comme le premier cas de revenge porn familial.
Hey, mais ça, là, ça doit être épouvantable!
Ben la belle-mère, là, c'est un sujet en soi, ça. Faudrait revenir avec ça. Oui, les beaux-parents, tu sais, c'est à quel point, des fois, est-ce que...
C'est des beaux-parents si détestables que ça.
Oh oui, crois-moi!
Je peux en parler!
Absolument! Si on continue dans les célébrités, là, pour le fun, pour ceux qui aiment ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Celebgate en 2014.
Pantoute,
vas-y. C'est le scandale de revenge porn, là, qui avait leaké sur les plus gros sites au monde, là, entre autres. C'est un hacker qui avait piraté les comptes iCloud et Google Drive de centaines de célébrités, dont...
ça me dit de quoi, ça,
ouais,
par exemple?
Jennifer Lawrence, qui avait dit... qui avait qualifié ça de crime sexuel. Elle était sortie dans les médias. Ensuite, avec Kate Upton, Kristen Dunst, Aria Grande. Qui malheureusement faisait partie du lot. Il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, dont Ryan Collins, qui a été condamné à 18 mois de prison pour ça. Donc, les célébrités, elles en sont victimes encore plus que nous, là, j'imagine, de
parler. Même au Québec, sans parler de sexualité, on parlait de deepfakes tantôt. Là, on a là, des célébrités locales, là, des artistes, des acteurs, qui leur face est reprise pour faire toutes sortes de pubs un peu louches là, sur des pertes de poids rapides.
Puis c'est inquiétant à quel point ça devient rapidement de plus en plus réaliste. C'est tout ce qui est intelligence artificielle, en fait.
Oui.
Tu sais... Puis ça, littéralement, tu peux rien faire contre ça. Ta face, c'est sur Internet, une photo de ta face, ta vidéo, puis bientôt, on saura plus pantoute dire si c'est vrai ou pas. Là.
Ça m'est arrivé, ça, moi. Ça, moi, j'ai reçu un deepfake avec ma face dessus. Là, évidemment, c'était évident que c'était truqué, mais ça fait tellement mal, pareil. Honnêtement, là, ça m'a fait de quoi au cœur parce que me suis dit, il y a du monde qui vont tomber là-dessus, OK, des jeunes probablement, qui vont pas regarder plus loin que le pixel ou ces trucs-là, puis qui vont l'utiliser à titre de plaisir. Puis ça, je comprends pas ça. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment frappée au cœur. Fait que j'ose même pas imaginer celles qui, justement, ceux qui sont capables de faire un meilleur rendu, là, puis c'est encore plus réel, ça doit être...
Bientôt, ça sera plus possible de faire la différence. On le voit, le pas de géant qui a été fait dans l'intelligence artificielle depuis juste, mettons, un an. Bientôt, ce sera plus possible. Puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là avec toutes les vidéos, ça va devenir... T'sais, à cette heure, on rit du monde là, qui se fait poigner par les vidéos d'intelligence artificielle.
Ouais.
On va dire, mais voyons, t'es donc bien calme.
Non, ça peut arriver n'importe
qui. C'est évident, là.
Ben, je pense qu'il va falloir sévir parce qu'au Québec, on n'est pas super bien vu en termes de criminalité sexuelle. On s'entend que quelqu'un qui commet un viol passe pas énormément de temps en prison. On va se le dire. Au Québec, on fait pitié là-dessus. Il y a certains pays, comme Israël, entre autres, qui considèrent maintenant la revenge porn comme une agression sexuelle, carrément.
Mais c'est une violation de ton intimité, en tout cas. Ça, je pense c'est qu'on peut ça. S'entendre sur ce terme-là. Là. T'en as-tu... j'ai goût de finir avec ça, Val. T'en as-tu, t'as une ado.
Oui.
T'en as-tu parlé avec ton ado, ça, de la façon d'utiliser tes plateformes, tes médias sociaux, tes Snapchat de ce monde-là?
Oui.
D'essayer de t'encadrer quand tu fais ça, puis d'être sûr de qui t'envoie ces affaires-là si tu le fais?
On n'a pas le choix, parce que... En plus, moi, je suis dans le domaine de la sexualité, donc il y a toutes sortes de moineaux là, qui tournent autour, donc il faut faire attention. J'ai pas eu le choix de m'asseoir avec eux à un moment donné. T'sais, quand ils sont jeunes, tu mets des photos d'eux quand ils sont bébés, c'est cute. Mais là, quand ils vieillissent, ils veulent pas nécessairement être associés au domaine de la sexualité, ils veulent pas que leurs amis le sachent. Et moi, j'ai dû m'asseoir avec eux et dire, ben regardez, vous allez peut-être être la cible un petit peu plus. Fait que faites très, très, très attention à ça. Moi, je poste rien sur mes enfants. Puis des fois, il y en a qui disent, ouais, il me semble que t'as pas l'air fier. Non, non, mais je suis... Vraiment pas fière. Mon fils va avoir 16 ans la semaine prochaine. Je suis tellement fière, mais je peux pas poster des photos de mes enfants sur Internet. Puis je trouve ça plate. Je suis pas une victime, là, mais je trouve ça plate de pas pouvoir faire comme les autres puis de pas pouvoir montrer la fierté que j'ai pour mes enfants sur Internet de parce que je suis probablement plus ciblée que les autres. Fait que oui, je leur en ai parlé, puis ils sont très, très forts avec ça. Ils préfèrent partager directement avec leurs meilleurs amis. Je se dis dans l'intranet.
Non, mais de façon plus, oui.
Au lieu de le pitcher dans les airs, puis ça, je suis fière d'eux pour ça. Surtout mon fils qui est très, très timide. Donc, je suis chanceuse pour ça, mais je vois de leurs amis à mes enfants qui publient des choses sur Instagram, partout, et franchement, des fois, je trouve ça dangereux.
Inquiétant.
Ouais.
Ça vaut une discussion définitivement à maison. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette type d'histoire-là. 88-971-1021, Val, on se voit vendredi prochain.
Yes.
Bonne fête de mère.
Bonne fête de mère à toi aussi.
Merci Audrey.
Salut Max.
Bon week-end. Au retour, Pascal CV va être là et on devrait avoir le temps pour faire un tour un petit peu plus étoffé des nouveautés musicales. C'est le Point de Max à Boulevard. Le Point de Max. Hey, c'est vendredi, 11h38, et pas fini le Point de Max, parce qu'après ça, on devrait avoir un peu de temps pour les nouveautés musicales, là, mais on s'en va vers la fin du Point de Max avec Pascal CV.
Salut, Max.
Salut.
On va mettre le point final à cette semaine du Point de Max. C'est ça, c'est un peu la thématique des prochaines minutes ensemble.
C'est-à-dire?
Rire, mais pas rire. On va aller faire le tour des nouvelles qu'on n'a certainement pas eu le temps d'éplucher cette semaine, mais qui font réagir. Parce que je pense que c'est important de le faire. On va se coucher moins niaiseux ou encore plus intelligent. Ça dépend de vous.
Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Yeah! Mes deux premières sont un peu à teneur d'actualité. J'ai pas le choix, tu comprendras, mais ça me fait poser beaucoup de questions sur où est-ce qu'on est rendu dans vie. Le procès pour qui relie en fait Brigitte Macron, en fait, on va devoir prouver pour Brigitte Macron qu'elle est une femme en cours.
Oui.
C'est pas une farce, il va vraiment falloir, dans le cadre de sa poursuite en diffamation contre l'influenceuse d'extrême droite américaine Candace Owens, que Brigitte Macron présente des preuves qu'elle est une femme biologique, et selon son avocat, il va falloir aller jusqu'à aller utiliser des preuves scientifiques, des photographies incluant des photos de ses grossesses. Je vous rappelle que Mme Macron a eu 3 enfants avec son premier mari. Puis en fait, c'est dans le but de discréditer la théorie qu'elle serait une femme trans. Ça va loin.
Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Yeah! On s'en va un peu dans le football. Le football, là, c'est recommencé. Je te vois commenter sans sens à propos de cette saison-là.
Sans sens? Dis-tu que mes propos n'ont pas de sens?
Ça t'appartient. Moi, je le proposais.
C'était donc bien insultant. C'était donc bien gratuit.
Où est Tom Brady? Hein? Oh, on s'ennuie de cette légende-là du football. Lui.
Il
a décidé que c'était fini il y a une couple d'années. Comme Gisèle, son ex-conjointe, en fait.
Oh, franchement.
Et cette légende du football qui a remporté 3 Super Bowls a décidé que c'était pas fini pour lui, le football. Mais il a mis un flag devant. Il sort de sa retraite et il s'en va du côté de l'Arabie Saoudite pour devenir une légende du flag football. On va suivre ça avec probablement peu d'intérêt.
Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Yeah!
Mais attends, c'est pas peu d'intérêt, oui puis non. C'est intéressant que l'Arabie Saoudite vienne mettre de l'argent dans le football. Puis là, il y a d'autres vedettes du football qui embarquent là-dedans avec Brady. Là, c'est Mais je me serais attendu à ce que tu dises hey, on va suivre ça parce que c'est inquiétant pour nos sports.
Mais tu sais que c'est une obsession que j'ai par rapport à ça et ben qu'on oui. en a fait de nombreuses chroniques
fait
avec des
tu
experts.
Tu vas le suivre.
Ouais, mais du côté un petit peu plus politique et économique
ah,
de la chose.
Voilà.
Puis là, on était un peu dans l'insolite. Il y en a une qui n'a pas voulu, je pense, et c'est une proposition encore d'opinion. S'afficher tant que ça avec Donald Trump dans les dernières heures. Melania Trump était où, Melania Trump?
Était où?
Mais cachée derrière un énorme chapeau. Ah. Grand chapeau de type Madame Plum dans, dans le jeu de société que l'on connaît tous. Et elle est allée en Angleterre, mais clairement, elle ne voulait pas tant y être. Je ne sais pas si vous avez vu le chapeau qu'elle arborait, mais immense chapeau qui ne laisse pas voir un trait de son visage. Honnêtement, on aurait pu se poser la question si elle est vraiment allée du côté de l'Angleterre. Et heureusement, on a eu des photographes qui sont allés la photographier sous divers angles et on peut confirmer que c'est elle. Par contre, on peut se demander pourquoi elle a choisi ce chapeau-là. Vous, vous auriez fait quoi à sa place?
Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Ah non. Yeah! Regarde ça, là, quand même. On y voit pas un trait du visage.
C'est un gros chapeau, Pascal.
On dirait de l'intelligence artificielle. Et là, je t'amène dans quelque chose que tu connais peut-être pas. L'univers des IG Nobel, les anti-Nobel. Ça, ce sont des prix assez parodiques, en fait. On récompense des recherches scientifiques qui, au premier regard, n'ont rien de super intéressant. C'est plutôt farfelu, absurde, drôle, mais en réalité, ça me fait beaucoup réfléchir. Tu veux-tu qu'on en lise une coupe de ces prix anti-Nobel? Parfait. Alors, si vous ne saviez pas qu'en 2025, on a fait des recherches qui composaient le fait d'aller peinturer des vaches, des vraies vaches, là, et de les peinturer un peu comme les femmes nues qui se font peinturer le corps dans des bars pour essayer de vendre. Mais finalement,
là, quand tu dis des vaches, c'est l'animal.
Oui,
parce
oui.
Que, OK, parce que là, tu parlais de femmes nues, je te trouvais très inapproprié. Puis ça, c'est le genre de propos qui aurait pu te valoir une suspension là, de ton rôle dans le Point de Max.
Non, je pense que c'était assez clair que c'était un peu de type body painting, c'est juste ça que je voulais exposer. Alors, d'une mamelle à une autre, on a peinturé
Pardon?
La vache.
Pascal!
Dans une recherche scientifique, c'est des chercheurs japonais qui ont décroché l'anti-Nobel parce que, justement, ces vaches-là, avec leurs taches, ont été peinturées pour les amener à être comme des zèbres. Fait qu'on leur a fait des rayures. Puis là, tu te demandes pourquoi. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont pas au bord.
Ah ouais, qu'est-ce qui se passe, là?
Non, non, ça leur permettrait de protéger ces vaches-là des mouches.
Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Yeah! Et vraiment, un des chercheurs a reçu un prix là, pour ça. Sinon, si tu veux avoir une étude sur l'alcool, toi qui es don fan et fier représentant de tout ce qui est un peu alcoolisé...
Juste la fin de semaine.
Malheureusement pour nous. Boire de l'alcool, mais en quantité moindre qu'une pinte de bière, ça permettrait de mieux parler une langue étrangère.
Mais
si
ça,
tu pensais
attends,
que c'était qu'une rumeur,
ouais.
C'est vrai.
Mais est-ce que c'est dans le sens où ça dégêne? Parce que moi, pour vrai, là... Une pinte ou deux, c'est tout ce que ça me prend et je te deviens bilingue, mais à 100%.
Mais comme je te disais, ce sont des études assez nichées, réelles et scientifiques. Donc, on s'est penché avec cette équipe de scientifiques-là, germano-néerlando-britanniques, sur les Allemands sous qui prononcent mieux le néerlandais que des Allemands sobres.
Des mentries mêmes. Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Yeah!
Ça m'amade, il faut. Ça m'amade, il faut aimer ta dernière. Des mentries de même, Pascal, ça n'a pas de bon sens.
Je vous le jure, c'est de la diffamation si on me dit que c'est une mentrie.
Des mentries de même, là. C'est,
c'est sérieux.
Des mentries de même, là. C'est inacceptable. Faut pas.
Faut pas, Pascal.
Je vous le jure, je vous le jure.
Pascal,
que c'est une
vraie étude. Faut pas. C'est inacceptable.
Parlant d'alcool, les chauves-souris qui étaient l'objet des recherches, ce sont les vainqueurs de l'anti-Nobel de l'aviation parce qu'ils ont démontré leur incapacité à voler après avoir ingéré de l'alcool via leur régime alimentaire de fruits fermentés. Ça vole pas haut pour les chauves-souris après avoir bu. Donc, ça vous rappelle qu'on appelle TZ si on boit en fin de semaine.
Des mentries de même, là. C'est inacceptable. Il faut pas...
Faut pas jouer là-dedans, Pascal.
Mais qu'est-ce qu'on fait, les Indiens? Sur quoi ils ont... enquêté scientifiquement sur quoi ils ont décidé de faire des recherches dans l'année 2025. Eh bien, sachez que les lauréats indiens ont reçu l'anti-Nobel pour de l'ingénierie. Ils ont réussi à prouver que les chaussures sentent mauvais. Et ça nuit à l'expérience positive liée à l'utilisation d'un range chaussures, comme quoi les nez humains sont courageux. Parce que, ouais, une chaussure qui pue fait en sorte que ça pue dans le garde-robe.
Des mentries de même, là. C'est inacceptable. Il faut pas jouer là-dedans, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, Pascal.
Tu pensais que tu servais à rien dans ton métier. Max ne doute plus. On est allé plus loin dans certaines
études. T'en as donc pas des études?
Il y a du monde qui ont décidé d'utiliser leur grand quotient intellectuel, des chercheurs qui ont observé des lézards. Et là, tu te demandes sûrement sur quoi. Mais ils ont
Monsieur Hamad aussi, là, il se demande, vas-tu encore me sortir des menteries?
Ils ont observé des lézards qui mangeaient de la pizza. Ils ont fait ça pendant plusieurs heures. Regardez ces lézards chapardiers, des restes de plats dans des hôtels au Togo. C'est vrai, ce que je vous dis là. Ils ont même poussé leur appétit de connaissance. On sait maintenant que les lézards préfèrent la pizza au fromage.
Ça sert à rien, mais c'est le fun. Yeah!
Je comprends pas où on voulait aller avec ça, mais l'antinobel de la pédiatrie, c'était pour des travaux qui portaient sur des bébés qui étaient allaités pendant que leur mère mangeait de l'ail. Je pense qu'on est en train de faire souffrir autant le bébé que la mère en personne.
Ça sert à rien, mais c'est le fun.
Yeah! Puis on est monté sa scène pour dire que les bébés aimaient ça, l'ail.
Aïe.
Puis je termine avec ma L'étude scientifique qu'on a fait auprès de gens narcissiques. Écoute, c'est toute une étude. On a décidé qu'on choisissait certains spectres du narcissisme. Et on voulait savoir, qu'arrive-t-il à un narcissique quand on lui dit qu'il est intelligent? C'est vraiment l'objet d'une étude qui a été menée par une équipe de chercheurs polono-canado-australienne.
Donc... Je me demandais pourquoi l'autre fois, écrasé quelqu'un dans la rue, il m'a dit « Ils sont bien intelligents, toi! »
Que ça te fait d'être intelligent? Et ça, c'est canadien en partie, comme je vous disais. On leur a posé la question à ces gens-là en disant « Si t'es extraordinaire et que tu le sais, tape dans tes mains! » Ça répond à la question.
Des menteries de même, là. C'est inacceptable. Il faut pas...
Ça sert à rien, mais c'est le fun. Yeah!
Merci beaucoup, Pascal CV.
Il faudra pas dire que c'est pas scientifique ici.
Le Sam Hamad, par exemple, a trouvé que t'as dit beaucoup de menteries aujourd'hui. Merci, Pascal. Bon week-end. On t'écoute avec Jeff ce midi. Hey, il nous reste quelques minutes dans le Point de Max 4, pour être bien exact, pour se faire un petit tour des nouveautés musicales du jour. Et on commence avec Aerosmith et Youngblood, qui nous arrive avec la tune My Only Angel. L'album, le micro-album en fait 5 titres, One More Time, qui va sortir le 21 novembre prochain. Il y a aussi Nine Inch Nails qui nous offre du nouveau matériel aujourd'hui. C'est dans le cadre du film Tron RS. Nine Inch Nails qui est derrière la soundtrack. Petit extrait de Wuhan Wants to Live Forever. Ça reste plate tout le long, j'ai pas choisi la bonne toune. Bon Jovi qui va bientôt sortir l'album Deluxe de son dernier album. Et le concept, c'est de chanter des tounes avec différents artistes. Et aujourd'hui, on nous offre Living Proof avec Jelly Roll. On a aussi une nouveauté aujourd'hui de All Time Low, le band pop-punk qui nous offre Butterflies. Toujours dans le pop-punk, un band que j'aime bien, Girlfriends, qui nous arrive avec Garbage. On reste dans le pop-punk, on va rejoindre Alkaline Trio et la nouveauté Bleeding Out. Yeah. Le gars de country qui est capable de rocker pas pire, Hardy, qui arrive aussi avec une nouvelle toune, Dog Years. Girls, not a worry in the world, and you and me made a good team. You took me in when I didn't have a prayer. That was the best life I could ask for. Now that I'm looking at you in the world. Restes-tu mollo de même? Reste mollo de même. Hey, pour terminer le point de Max, puis en passant des nouveautés musicales, vous allez en entendre en masse dans Gravel dans le retour. Soyez à l'écoute de la gang dès 14h. Sam Ahmad qui présentait le reste de son équipe ce matin en lien avec l'élection municipale qui officiellement lance, bon, on lance en campagne aujourd'hui. Ben, Sam Ahmad qui manque un candidat là, à cause d'un désistement. On en parlait ce matin. On parlait peut-être de Patrick Paquette, là, mais ce serait pas confirmé. Là, ça a l'air qu'on parlerait d'un seul mandat pour Sam Ahmad. C'est le Journal de Québec qui en fait son titre par rapport à ce point de presse-là. Fait que ça serait finalement un seul mandat pour Sam Ahmad. Il était comme pas clair là-dessus. Là. Bref, merci beaucoup d'avoir été là dans le Point de Max cette semaine. Jeff s'en vient avec Pascal. Nous, on se retrouve lundi. Salut, ciao, bye, bon week-end. Go, Rempart, go!